Un bruit absurde court dans le quartier à propos de nouvelles restrictions. Afin de parer à la disette et d'assurer un meilleur rendement de l'élément labrieux de la population, il serait procédé à la mise à mort des consommateurs improductifs. Vieillards, retraités, rentiers, chômeurs et autres bouches inutiles. Au fond, je trouve que cette mesure serait assez juste.
Extrait du journal de Jules Flegmont. D'après la carte de Marcel Aimé. Adapté et réalisé par la compagnie L'Homme de Paille. Février.
Rencontré tout à l'heure devant chez moi, mon voisin Rocanton, ce fougueux septuagénaire qui épousa l'an passé une jeune femme de 24 ans.
Mais c'est scandaleux! Scandaleux, enfin! Ils sont tombés sur la tête ou quoi? S'en prendre ainsi au troisième âge. Des monstres, je vous dis, des monstres!
L'indignation l'étouffait.
Ah non, mais tout de même, c'est insensé! Qu'est-ce que ça peut faire l'âge, puisque je fais le bonheur de ma poupée jolie?
En des termes élevés, je lui ai conseillé d'accepter avec une joie orgueilleuse le sacrifice de sa personne au bien de la communauté.
12 février.
Merci. Excusez-moi. Vous nous avez servi à maturer du Jura ?
Il n'y a pas de fumée sans feu. Déjeuner aujourd'hui avec mon vieil ami Malfroid, conseiller à la préfecture de Bretagne.
Oui, merci.
Je l'ai cuisiné adroitement. Après lui avoir délié la langue avec une bouteille d'arbois.
Allons, Flegmont, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Mais il n'est pas question de rogner sur leur temps de vie. Et puis on va pas non plus en faire un fromage. Ils auront droit à tant de jours d'existence par mois, selon leur degré d'inutilité.
J'ai trouvé cette idée aussi heureuse que poétique. Je crois me souvenir d'avoir dit là-dessus des choses vraiment charmantes.
Et puis de toute façon, les cartes de temps ont déjà été imprimées.
Terminé.
Oui.
Souhaitez-vous un dessert dans la formule?
Sans doute un peu ému par le vin, Malfroid me regardait avec de bons yeux, tout embué par l'amitié.
13 février.
C'est une infamie, un délit de justice, un monstrueux assassinat! Le décret vient de paraître dans les journaux et voilà-t-il pas que parmi les consommateurs dont l'entretien n'est compensé par aucune contrepartie réelle, figurent les artistes et les écrivains. À la rigueur, j'aurais compris que la mesure s'appliqua aux peintres, aux sculpteurs, aux musiciens, mais aux écrivains. Il y a là une inconséquence, une aberration qui restera la honte suprême de notre époque, car enfin, l'utilité des écrivains n'est pas à démontrer, surtout la mienne. Je peux le dire en toute modestie. Or, je n'aurai droit qu'à 15 jours d'existence par mois.
Février.
Le décret entre en vigueur le 1er mars et les inscriptions devant être prises dès le 18. Les gens voués par leur situation sociale à une existence partielle s'affairent à la recherche d'un emploi qui leur permette d'être classés dans la catégorie des vivants à part entière. Mais c'est pas possible, l'administration! Avec une prévoyance diabolique, a interdit tout mouvement de personnel avant le 25 février.
Bon, moi je vais téléphoner à Malfroid.
Oui, allô?
Oui, Malfroid?
Oui?
Oui. Comment dire, Jules Flegmont à l'appareil.
Oui, Jules, oui, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, bien, et vous?
Oui, très bien. En fait, en fait, je vous appelle parce que j'ai, comment dire, une demande à vous faire. Je voulais savoir s'il vous restait des emplois de portier ou gardien de musée, par exemple.
Vous arrivez trop tard, mon ami.
Ah bon ?
J'ai accordé la dernière place de garçon de bureau dont je disposais.
Ah.
Mais aussi, pourquoi dire d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour me demander une place ?
Mais comment pouvais-je supposer que la mesure me concernerait ? Quand on a mangé ensemble l'autre jour, vous m'avez dit que...
Permettez, j'ai spécifié un peu plus clairement que la mesure concernait tous les inutiles.
Oui. Merci. Merci, monsieur.
Sans doute ma conserve me considère-t-elle déjà comme un demi-vivant. Une ombre émergeant à peine de l'enfer car elle a négligé de m'apporter mon courrier ce matin.
Et alors, il va bien le petit monsieur? Il a fait un gros dodo aujourd'hui le petit monsieur? Bah oui. Ah bah, on doit être fatigué hein, à écrire comme ça toujours, alors qu'il y en a d'autres qui travaillent. Hein. Le petit monsieur du deuxième, oui.
Ouais, c'est pour mieux gaver les paresseux de votre espèce que Nilith fait le sacrifice de sa vie.
Rencontré tout à l'heure Roquenton.
17 février.
Roquenton et sa jeune femme.
Oh, vous vous rendez compte?
Le pauvre vieux m'a fait pitié.
En tout et pour tout, j'aurai droit à 6 jours de vie par mois. Alors que ma Lucette petit cœur, elle devrait en avoir 15 en raison de sa jeunesse.
Oh oui, écoute, Lapinou, c'est comme ça. Ça fait que 9 jours sans toi, c'est pas si énorme.
Non, c'est pas énorme.
Et je pourrais aller faire du shopping.
Hein? Qu'est-ce que tu dis?
J'ai dit que j'irais voir mes copines.
Ah, tes copines, oui.
Bah oui. Et on pourra peut-être se voir. J'ai dit que je pourrais aller à la boulangerie m'acheter des pâtisseries.
Ah, oui.
Bah oui, tu sais, les petits gâteaux que j'aime bien manger, là.
Eh oui, bah tu les mangeras sans moi, les gâteaux, évidemment.
Bah oui, mais toi, t'en manges pas, des gâteaux.
Puis arrête de m'appeler lapin.
Oh, bon. Mon choupinou, écoute...
Choupinou, lapin, tout ça, c'est de la même famille. Hein.
Mais tu m'appelles bien Lucette Petit Cœur, enfin.
Enfin, je suis désolé, Lucette Petit Cœur et Lapinou, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Tu mets pas Lucette Petit Cœur dans un clapier.
Ah bon. En tout cas, ce décalage, il a jeté de vieil époux dans une anxiété folle.
Tu dis pas au revoir, lapin?
Et au revoir, Flegmont.
Allez, au revoir, monsieur Flegmont. On se voit bientôt.
La petite, elle paraît accepter son sort avec plus de philosophie. Au cours de cette journée, j'ai rencontré plusieurs personnes que le décret n'atteint pas. Leur incompréhension et leur ingratitude à l'égard des sacrifiés me dégoûtent profondément. Non seulement cette mesure inique, c'est-à-dire injuste, leur apparaît comme la chose la plus naturelle du monde, mais il semble bien qu'ils s'en réjouissent. On ne flétrira jamais assez cruellement l'égoïsme des humains.
Février 24.
Il y a une huitaine de jours, j'avais écrit à l'administration compétente pour que mon cas personnel fût pris en considération.
Bah, j'ai obtenu un supplément de 24 heures d'existence par mois. Ah bah, c'est toujours ça.
Ah. 5 mars.
Depuis une dizaine de jours, je mène une existence fiévreuse qui m'a fait délaisser mon journal. Pour ne rien laisser perdre d'une vie aussi brève, j'ai quasiment perdu le sommeil de mes nuits. En ces 4 derniers jours, j'aurais noirci plus de papier qu'en 3 semaines de vie normale. Et toutefois, mon style garde le même éclat, ma pensée la même profondeur. Je me dépense au plaisir avec la même frénésie. Je voudrais que toutes les jolies femmes fussent à moi.
Mais c'est impossible. Toujours avec le désir de profiter de l'heure qui passe, et peut-être aussi dans un esprit de vengeance, je fais chaque jour 2 très copieux repas. Au marché noir, hein. Manger à midi, 3 douzaines d'huîtres, 2 œufs pochés, 1 quartier d'oie, 1 tranche de filet de bœuf, légumes, salade, fromage d'hiver, un entremets au chocolat, 1 pamplemousse et 3 mandarines. En buvant mon café, et quoique l'idée de mon triste sort ne m'eût point abandonné, j'éprouvais un certain sentiment de bonheur. Deviendrais-je un parfait stoïcien? En sortant du restaurant, je suis tombé sur le couple Roquenton. Le bonhomme vivait aujourd'hui sa dernière journée du mois de mars. Ce soir, à minuit, son 6e ticket usé, il sombrera dans le non-être et y demeurera 25 jours. Rendu visite à la jeune Madame Roquenton, provisoirement veuve depuis la minuit.
Oh Lucette, j'ai fait aussi vite que j'ai pu.
7 mars.
Bonjour.
Oh Jules, oh, vous êtes là. Oh, vous ne devinerez jamais comment ça s'est passé. C'est terrible. Venez, je vais vous raconter.
Elle m'a accueilli avec une grâce que la mélancolie rendait plus charmante.
Nous étions hier soir dans la chambre avec mon mari et je lui tenais la main. Il était en train de m'expliquer les dernières choses courantes, de me rappeler les dernières choses à faire pendant son absence et de me rassurer, de me dire qu'il serait là de retour dans 15 jours, qu'il fallait bien que je m'inquiète pas, que ça allait aller. Et bon, on rigolait, on bavardait. Je lui tenais la main et puis il était là.
Je reconnais bien ce brave monsieur Roquenton.
Oui, très gentil, très attentionné. Et puis à minuit pile, j'ai senti sa main qui se liquéfiait dans la mienne.
Qui se liquéfiait ?
Oui, qui se liquéfiait et il a disparu.
Non, il a disparu.
Il ne restait plus que son pyjama et son dentier sur le lit.
Et son dentier ?
C'était horrible. C'était horrible.
Et son pyjama?
Oui, il a disparu et je sais même pas où il est. C'est terrible, c'est terrible. Et en plus, c'est ce qui va m'arriver dans 11 jours aussi. Je sais même pas où je vais aller.
Ma petite Lucette, ne vous inquiétez pas, je suis là. Lucette, mais c'est pas grave, on est là, hein, Lucette.
Mais vous croyez que ça va aller?
Oui, oh ma Lucette.
Oh, vous êtes gentille,
oui.
Jules.
Oh Lucette.
Vous êtes vraiment gentille.
Oh, mais vous aussi. Cette évocation nous a bien vivement émus.
Dominé par le massif des Vosges, Kaisersberg se niche dans la vallée fertile de la Baisse.
12 mars.
Hier soir à 6h, je suis allé prendre un verre de sirop chez Perruque, l'académicien.
Kaisersberg, une quintessence du style.
Comme on sait, l'administration, pour ne pas faire mentir leur réputation d'immortalité, accorde à ces débris le privilège de figurer parmi les vivants à part entière. Perruque a été ignoble de suffisance, d'hypocrisie et de méchanceté. Nous étions chez lui une quinzaine. Tous des sacrifiés qui vivions nos derniers tickets du mois. Perruque seul était à part entière. Il nous traitait avec bonté comme des êtres diminués, impuissants. Il nous plaignait avec une mauvaise flamme dans l'œil, nous promettant de défendre nos intérêts en notre absence. Il jouissait d'être, sur un certain plan, quelque chose de plus que nous. Je me suis retenu à 4 pour ne pas le traiter de vieux melon et de canasson refroidi. Oh, mais si j'avais pas l'espoir de lui... de lui succéder un jour...
Alors, il mesure combien ?
Stan régale volontiers les siens de galettes toutes fraîches. Elle en fait deux sortes, des quatre-mères et des gosse-lémées. Pour les quatre-mères, la version sucrée, la pâte composée de farine, d'eau et de sel est badigeonnée d'huile de sésame et de sucre avant d'être enroulée sur elle-même comme un escargot.
Lucette Roquenton est entrée cette nuit dans le néant. Comme elle avait une grande peur, je l'ai assistée dans ses derniers moments. Elle était déjà couchée lorsque, à 9h30, je suis monté chez elle. Pour lui éviter les affres de la dernière minute, je me suis arrangé pour retarder d'un quart d'heure la pendulette qui se trouvait sur la table de chevet.
Oh Lucette, mais comment tu vas? Comment c'est... Ce n'est pas trop dur ce moment?
Si Jules, merci d'être venu me tenir compagnie parce que là je me sens un peu stressée quand même. Hein.
J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oh Lucette, tu vas me manquer quand tu vas disparaître dans le néant.
Oh oui, mais je vais aller dans le néant, je vais disparaître.
Tu vas t'évanouir.
Oh, je suis morte de trouille.
Comme oh, voilà. Ce cher Roquenton.
Oh mais je commence à pleurer, je pleure, j'ai mon maquillage qui coule. Oh non, je vais être terrible. Je vais être horrible, ça va être horrible, Jules, j'ai peur.
Tu as peur du néant?
Oh, oui, j'ai peur du néant, oui.
Oui, moi aussi, mais là, c'est pas mon problème à moi, c'est le tien.
Oh non. Combien de temps il me reste?
Profitons de ce petit moment qui nous reste ensemble.
Mais combien de temps il reste?
On a le temps, 20 bonnes minutes au moins.
Oh, 20 minutes? Je vais me refaire une beauté. Oh, je me recoiffe.
Mais tu sais quoi? Ne t'inquiète quoi? Pas. Je saurais prendre soin de ton dentier.
Mon dentier? Mais j'ai pas de dentier, moi.
Ah, tu n'es pas comme ton vieux schnock de Marie, alors?
Ah oui, lui. C'est vrai, ça me rappelle la fois où il a disparu en laissant son dentier. Est-ce que c'est drôle? Bon, et ça va, là, j'ai plus de maquillage, c'est bon?
C'est super.
Oh, merci, Jules, c'est vraiment gentil.
Lucette. Oh bah merde, elle a disparu. Oh Lucette. Ma petite Lucette. Oh.
Ce matin même, à l'instant où j'écris Céline, je suis angoissé.
16 mars.
Depuis mon réveil, je compte les heures qui me restent à vivre. Ce soir à minuit, ce sera mon tour. Ce même jour, à minuit moins le quart, je reprends mon journal. Je viens de me coucher et je veux que cette mort provisoire me prenne la plume à la main dans l'exercice de ma profession. Je trouve cette attitude assez crâne. J'aime cette forme de courage élégante et discrète. En fait, la mort qui m'attend est-elle bien réellement provisoire et ne s'agit-il pas d'une mort pure et simple? Cette promesse de résurrection ne me dit rien qui vaille. Je suis maintenant tenté d'y voir une façon habile de nous colorer la sinistre vérité. Si dans 15 jours, aucun des sacrifiés ne ressuscite, qui donc réclamera pour eux? Pas leurs héritiers, bien sûr! Et quand ils réclameraient la belle consolation? Je pense tout à coup que les sacrifiés doivent ressusciter en bloc. Le premier jour du mois prochain. C'est-à-dire le 1er avril. Ah bah, ça pourrait être l'occasion d'un joli poisson, tiens. Je me sens pris d'une panique.
Thank you.
C'était extrait du journal de Jules Flegmont. Premier épisode. D'après la nouvelle fantastique et de science-fiction de Marcel Aimé. Parution en 1943 dans le recueil Le Passe-Muraille. Avec Xavier Lescaut, Jules Flegmont, Didier Leroy, Roquenton, Michael Blanchet, Malfroy, Diane Giorgis, Lucette et la concierge. Extraits musicaux, Tagana Jones et Astor Piazzolla.